Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui au fascisme, et plus précisément à l'ouvrage de Daniel Guérin, Fascisme et Grand Capital. Alors, c'est un ouvrage, une somme, en fait, sur le fascisme, qui aborde en fait un certain nombre d'aspects du fascisme, qui aborde finalement... Le contexte de naissance du fascisme, la dimension de classe, également le discours, l'idéologie qui peut paraître en fait anticapitaliste à certains égards, et en réalité la politique réellement menée par le fascisme une fois au pouvoir. Donc on voit en fait que c'est un ouvrage qui propose une interprétation originale du fascisme qui est encore aujourd'hui très intéressante, et qui a l'avantage de se lire extrêmement bien par rapport à d'autres ouvrages sur le fascisme. Alors, c'est important de préciser que ce thème du fascisme, donc là on va parler essentiellement du coup du nazisme, du national-socialisme allemand et du fascisme italien, on l'a déjà abordé de manière transversale dans un certain nombre d'autres émissions, donc dans l'émission de critique d'Étienne Chouard, où on avait essayé de montrer que le fascisme, comme mouvement de masse de conquête du pouvoir, au début avec des accents qu'on pourrait qualifier d'anticapitalisme réactionnaire avec Daniel Guérin, c'est-à-dire un anticapitalisme qui est principalement rhétorique et démagogique et qui s'attaque surtout aux juifs et pas vraiment forcément au système capitaliste lui-même. On l'a également abordé dans l'émission consacrée à l'antisémitisme d'extrême droite, où on a développé l'idée de l'historien américain Moshe Postone, qui est mort récemment en 2018, et qui développait l'idée que, dans un article qui s'appelle « Antisémitisme et national-socialisme », que finalement le national-socialisme serait au moins au niveau de l'idéologie. On verra dans cette émission que l'idéologie ne correspond pas toujours à la réalité, que le nazisme est une forme d'anticapitalisme tronqué, c'est-à-dire un anticapitalisme qui va s'attaquer avant tout à la finance internationale, plutôt que de s'attaquer au capitalisme lui-même, au travail, à l'industrie, au fondement de la société capitaliste. On peut également renvoyer à une note de lecture qu'on a fait sur Temps obscurs, qui est un ouvrage donc, qui parle plutôt, on va dire, de l'actualité un petit peu du fascisme, dans la perspective d'ailleurs de Daniel Guérin, puisque c'est notamment un communiste libertaire qui a écrit cet ouvrage, et donc qui réactualise un petit peu cette théorie, notamment en essayant de l'appliquer au Front National, à Alain Soral, etc. Donc voilà, on parlera un petit peu de l'actualité en fin d'émission, mais enfin on renvoie vraiment à cet ouvrage pour l'actualité, un petit peu d'une analyse telle que celle que Daniel Guérin l'a fait. D'ailleurs, à propos de l'actualité un petit peu d'une théorie matérialiste du fascisme, comme l'a développé Daniel Guérin, on invite également à lire l'article très intéressant « La théorie de la communisation et la question du fascisme » qui s'interroge, est-ce que l'aggravation de la crise actuelle du capitalisme ne déboucherait pas et ne débouche pas déjà sur une montée des mouvements nationalistes, racistes, antisémites, misogynes, etc. et qui, de plus en plus, se drapent de la bannière de l'anticapitalisme. Et cet article invite à réfléchir au fait que ce n'est pas parce que la crise du capitalisme s'aggrave et que la contradiction capital-travail devient toujours plus forte, que forcément cette crise va déboucher sur le communisme. Au contraire, on devrait apprendre des leçons précisément des années 1920 et 1930 pour considérer que la crise du capitalisme ne débouche pas mécaniquement sur son dépassement émancipateur, mais peut déboucher sur tout un tas d'hypothèses qu'il développe dans l'article et qui sont très inquiétantes et qui, disons, reposent finalement la question aujourd'hui d'un antifascisme révolutionnaire, c'est-à-dire à la fois d'une perspective de sortie émancipatrice du capitalisme, mais cette perspective étant consciente du danger de mouvements nationalistes, racistes, que ce soit des mouvements d'en bas ou éventuellement de l'État capitaliste lui-même. Et puis après, peut-être en complément, ça peut être intéressant d'écouter, en complément de cette émission, « Labyrinthe du fascisme » qui est paru sur Radio Vostany il y a quelques années, qui est un entretien extrêmement long avec un historien portugais du fascisme, assez intéressant, qui a lu pas mal les auteurs fascistes et qui, en plus, amène une perspective intéressante aussi sur le Portugal. Et lui définissait, et là on va rentrer un petit peu dans le débat un peu théorique sur qu'est-ce que c'est que le fascisme, parce qu'évidemment c'est un débat gigantesque. Guérin propose un certain nombre de choses, et je pense que c'est peut-être l'ouvrage qui concentre le mieux une théorie un peu solide et matérialiste du fascisme, mais cet historien portugais, João Bernardo, définissait le fascisme comme une révolte dans l'ordre. Là, on parle vraiment du fascisme comme mouvement. Il faut toujours distinguer le fascisme au pouvoir et le fascisme comme mouvement. Mais le fascisme comme mouvement, c'est-à-dire en Italie avant 1922, la prise du pouvoir par Mussolini, et avant 1933 en Allemagne, la prise du pouvoir par Hitler, c'est un mouvement qui à la fois prétend contester radicalement l'ordre existant, c'est-à-dire ce qu'ils eux-mêmes appellent chez les nazis le système, qui prétend contester la banque, le grand capital monopoleur industriel, prétend également remettre en cause la destruction de la paysannerie, la destruction des classes moyennes anciennes, donc les classes moyennes qu'on dit indépendantes, c'est-à-dire en fait ce que Marx appelait la petite bourgeoisie. Mais en même temps, c'est une révolte qui en fait respecte fondamentalement l'ordre capitaliste et étatiste, et comme d'ailleurs sa pratique du pouvoir le montrera très bien, et comme Daniel Guérin le montre très bien. Peut-être, et quels sont finalement les enjeux les plus brûlants sur la question qu'aborde Daniel Guérin en Fascisme et Grand Capital ? Il y en a plusieurs. D'une part, il y a la question du lien entre la classe ouvrière et le fascisme. Donc, la thèse classique sur le fascisme, c'est que c'est un mouvement principalement de classe moyenne. Et il s'est développé, dans les dernières décennies, une forme de révisionnisme qui a voulu, faire passer le fascisme comme une forme de mouvement ouvrier. C'est notamment des historiens allemands qui ont essayé de faire croire que, finalement, Hitler n'était qu'une espèce de leader ouvrier, qu'il y avait en fait une vraie dimension sociale dans le nazisme et dans le fascisme, que c'était pas uniquement du verbiage. On trouve ça notamment dans l'ouvrage de Götz Ali, « Comment Hitler a acheté les Allemands », qui est un ouvrage assez célèbre là-dessus, et où lui défend l'idée que finalement il y a eu une espèce de pacte entre Hitler et la classe ouvrière allemande, et que en fait Hitler a réussi à acheter la classe ouvrière allemande avec des avantages matériels, qui en plus étaient financés de manière, comme on le sait, antisémite par la spoliation des biens juifs, l'arianisation, et de manière impérialiste par la conquête, notamment de la Pologne, de la Russie, et puis d'autres pays à l'ouest, notamment la France. Alors, je pense que un des enjeux dans cette émission, c'est de répondre de manière critique à ce révisionnisme, et sans pour autant exempter complètement la classe ouvrière de toute forme de lien avec le nazisme. On ne va pas dire qu'il n'y avait aucun ouvrier dans le parti nazi ou dans le parti fasciste. On sait depuis quelques temps que, au début des années 1930, c'est Sergio Bologna qui le dit dans un article qu'on trouve sur Libcom, qui est un article malheureusement bon en anglais, mais qui est extrêmement intéressant, que sur les membres du parti nazi, au début des années 30, il y a à peu près 40% d'ouvriers. Donc on voit que, bon, il y a quand même une composition qui n'est pas négligeable. Historiquement, ça n'a rien d'étonnant qu'une fraction de la classe ouvrière ait pu apporter son soutien au national-socialisme, puisque, bon, bah, évidemment, les ouvriers peuvent être sensibles à des thèmes nationalistes, contre la concurrence étrangère, finalement, contre le capital international. Ils peuvent être sensibles à des thèmes antisémites, c'est-à-dire finalement, ils vont voir les banques incarnées par les juifs, comme étant les véritables responsables de leur situation matérielle et non pas le grand capital ou le capital national. Évidemment que certaines politiques sociales du nazisme ont pu avoir quelque chose de... pu représenter des tentatives de séduction de la classe ouvrière. Pour autant, c'est important de le dire, cette thèse révisionniste est un petit peu grossière, dans le sens où elle se base surtout pour ce qui est des historiens révisionnistes allemands sur les discours. Donc effectivement, il y a plein de discours d'Hitler qui sont contre le grand capital, qui sont pour la classe ouvrière et tout ça, mais après, bon, la réalité, comme on le verra dans cette émission, est quand même très, très, très différente. Et après, pour ce qui est des avantages matériels procurés aux prolétariats allemands, oui, c'est sûr que par rapport aux prolétaires juifs, effectivement, ils étaient avantagés. Et par rapport aux prolétaires polonais, pays occupés, ils étaient avantagés. Mais pour autant, il ne faut pas oublier qu'il y a eu, sous le nazisme, et là on développera dans l'émission, et du coup je parle uniquement de ce que ne dit pas Daniel Guérin, mais de ce que dit un autre historien, Tim Mason, qui est extrêmement intéressant sur ce sujet, et qui a fait une excellente brochure qui s'appelle « La classe ouvrière sous le Troisième Reich », que j'invite tout le monde à lire. Eh bien, Tim Mason dit que, en réalité, il y a eu une espèce d'opposition sourde des ouvriers à certaines politiques du nazisme, notamment face à l'intensification du travail, face à l'envoi au front, et qu'il ne s'agit pas d'oublier que, même si effectivement il n'y a pas eu de résistance ouvrière massive après les premiers mois, disons, de la prise de pouvoir d'Hitler, il ne faut pas oublier quand même les conditions dans lesquelles était la classe ouvrière allemande de l'époque, c'est-à-dire un régime de terreur policière où le simple fait de faire grève était punissable de prison et le fait de saboter le peine de mort. On reviendra un peu sur cet aspect, mais enfin, voilà, il ne faut quand même pas non plus tomber dans une forme de... On n'était pas dans des conditions tout à fait normales où la résistance ouvrière pouvait s'exprimer de manière ouverte. Et pour autant, en 1936-1937, comme le montre Tim Mason, il y a vraiment eu une opposition aux politiques anti-ouvrières du nazisme et qui ont eu une véritable incidence, pas seulement, donc on pourrait dire oui, mais c'est juste de la défense de leurs propres intérêts de classe, mais ça n'a pas eu d'incidence sur les autres catégories. Ben, en réalité, on peut considérer que ça a été un des principaux obstacles à l'effort de guerre à partir de 1936 jusqu'en 1939. La machine de guerre allemande a été ralentie, pas suffisamment, hein, mais elle a été quand même ralentie par la protestation sourde des ouvriers, par tout un tas de stratégies, de sabotage, de coulage de cadence, de turnover extrêmement rapide, etc. Donc voilà, disons que par rapport à la classe ouvrière, finalement, la position Daniel Guérin, qui essaye de montrer que c'est plus particulièrement certaines fractions de la classe ouvrière qui ont été sensibles au discours nazi, notamment les chômeurs ou les ouvriers extrêmement qualifiés, l'aristocratie ouvrière, paraît intéressante. Et après, le deuxième aspect, et là, je vais m'arrêter là, je pense que ce que Daniel Guérin a extrêmement bien vu, c'est que le fascisme n'était pas un pur produit de la Première Guerre mondiale, mais plus profondément un produit de la crise du capitalisme. Pour le nazisme, c'est évident, hein, 1929, c'est la grande crise, et 1933, la prise du pouvoir d'Hitler. Et en fait, pour le fascisme italien, c'est vrai aussi, parce qu'il y a, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a une période de stagnation économique très forte, en Italie liée au fait que, avec la fin de la guerre, du coup, les usines se retrouvent en surproduction complète. Et en plus, en Italie, il y a le facteur qui est une énorme agitation sociale. Enfin, on reviendra sur tout ça. Et je pense que ça, c'est quand même intéressant, finalement, aussi pour aujourd'hui, de voir que la crise du capitalisme favorise des mouvements comme celui du fascisme. Et pour finir, je pense que l'apport le plus intéressant, enfin un des apports vraiment centraux de ce livre de Daniel Guérin, c'est de montrer que le fascisme, finalement, au fur et à mesure de son histoire, est toujours moins un anticapitalisme tronqué ou réactionnaire, et toujours plus au service du grand capital, de sa politique de puissance et de son expansion impériale. Le livre de Daniel Guérin, une de ses forces, c'est de montrer que derrière les discours fascistes qui ont l'air comme ça anticapitalistes, eh bien, il y a une réalité, quand bien même, bon, évidemment, l'anticapitalisme réactionnaire ne nous intéresse pas du tout, même les gens qui peuvent trouver un intérêt aujourd'hui à des théories comme celle d'Alain Soral, ne devrait pas oublier qu'en réalité, le fascisme, une fois qu'il arrive au pouvoir, ne fait pas du tout de ce qu'il avait dit, à part sur les aspects les plus réactionnaires, comme la politique antisémite. Tout ça pour dire que c'est un ouvrage extrêmement intéressant, dont on conseille la lecture intégrale, hein, parce que tout est vraiment très intéressant. Il y a des chapitres un petit peu plus techniques vers la fin, mais c'est vraiment passionnant. Et donc, du coup, pour commencer un petit peu à démêler un peu toute la complexité, hein, du phénomène fasciste et à aborder un peu les différentes thèses de Daniel Guérin, qu'on a abordé de manière très, très sommaire, on est avec, du coup, Charles Jacquier, historien, qui est éditeur du livre. Hein. Il faut rappeler que c'est un livre, du coup, qui est reparu aux éditions Libertalia en 2013. Et qui a une très longue histoire que va nous raconter Charles Jacquier. Et on rappelle simplement également qu'on a fait une émission avec Charles Jacquier sur le Front Populaire en France. Donc bonjour Charles.
Bonjour.
Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu, maintenant que j'ai fait une espèce de grande introduction un peu plus théorique, justement du contexte de l'écriture de ce livre, de l'auteur, hein, Daniel Guérin, et puis un petit peu de ce que toi tu penses qui est vraiment essentiel dans ce livre.
Je pense qu'il faut, ce qui est extrêmement intéressant avec les livres de Daniel Guérin, c'est que à côté de la théorie, il y a tout un aspect extrêmement incarné, extrêmement charnel, puisque Guérin est lui-même un militant. Mais avant d'aborder personnalité de Guérin, il me semble qu'il est extrêmement intéressant de dire quelques mots sur le contexte dans lequel le bouquin paraît et les raisons pour lesquelles Daniel Guérin a consacré plusieurs mois de sa vie, d'un travail acharné pour arriver à cet ouvrage. Alors d'abord, ce dont il faut bien avoir conscience, bon, nous on a évidemment un regard rétrospectif. Quand on se plonge dans dans la presse de l'époque, dans les témoignages de l'époque, ce qui est extrêmement intéressant de constater, c'est que le danger nazi, et parle uniquement de 1933 en l'occurrence, l'Italie, pour en dire deux mots, c'est d'ailleurs ce que dit Guérin dans son livre. La prise du pouvoir par Mussolini en Italie a peu suscité d'écho, a été considérée comme quelque chose, voilà, c'est les Italiens, c'est un pays sous-développé, quoi, hein, donc on n'est pas tellement concerné, effectivement, c'est regrettable, il y a un peu moins de démocratie qu'avant l'arrivée de Mussolini au pouvoir, mais c'est pas totalement négatif, parce que grâce à Mussolini, on a asséché les marais pontins, les trains arrivent à l'heure, le désordre social qu'il pouvait y avoir auparavant a été éradiqué. Et puis, bon, voilà, l'Italie, c'est pas un grand pays sur la scène mondiale, mais aussi européenne. Ça ne suscite pas un très très grand intérêt. Bon, l'Allemagne, c'est un pays d'une toute autre dimension. Il y a effectivement un contentieux de longue date avec la France, enfin, il y a des rivalités impérialistes que tout le monde est à même de connaître, même si on n'emploie pas ce type de vocabulaire ou ce type d'analyse, puisqu'il y a déjà eu la guerre de 1870, la guerre de 14-18, etc. Mais malgré ça, et malgré l'importance de l'Allemagne sur la scène européenne, d'une manière générale, on s'intéresse assez peu à ce qui se passe en Allemagne à ce moment-là. Et très précisément, si on en vient au mouvement ouvrier lui-même, ce qui saute aux yeux dès qu'on s'intéresse un tant soit peu à la question, c'est de constater que le danger nazi est totalement sous-estimé. Un seul exemple pour la période 31-32, on sait que Blum a lui-même, qui est considéré comme un politique de premier plan, intellectuel brillant, etc., donc leader de la SFIO, le Parti Socialiste de l'époque, a déclaré lui-même dans un de ses éditoriaux du Populaire, le quotidien socialiste, qu'Hitler ne pouvait pas arriver au pouvoir. Il estime que Hitler, c'est un phénomène analogue au général Boulanger en France dans les années fin du 19e siècle. Donc c'est une espèce de soufflet assez artificiel qui va nécessairement retomber. Donc ça c'est pour le point de vue socialiste avant le 30 juillet 33. Côté communiste, ou stalinien si on préfère, mouvement communiste officiel orthodoxe. Voilà ce que dit un dirigeant communiste allemand qui s'appelle Hermann Remmele en octobre 1931. Une fois les nazis au pouvoir, le front unique du prolétariat se réalisera et fera place nette. Les fascistes ne nous font pas peur, ils arriveront au bout de leur rouleau plus vite que tout autre gouvernement. Je pense que, au niveau lucidité, on est quand même, y a quand même un léger problème. Une fois que Hitler arrive au pouvoir, donc le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier, c'est-à-dire chef du gouvernement ou premier ministre, par le président de la République, qui est le maréchal Hindenburg. Donc il n'est pas du tout élu, contrairement à ce qu'on croit. Le parti nazi est à ce moment-là le premier parti en termes électoral en Allemagne, mais il n'a jamais dépassé les... en gros le tiers de l'électorat, ou un gros tiers de l'électorat. Et aux élections, aux dernières élections avant la nomination d'Hitler, en novembre 1932, il a connu un sérieux revers, puisqu'il a perdu à peu près 5 à 7% des voix, et donc un nombre de députés équivalent. Donc c'est encore la première force politique en Allemagne, mais c'est une force politique qui vient de connaître son premier recul, et la situation interne du parti nazi est extrêmement problématique, dans la mesure où le parti connaît deux types de difficultés. D'abord des difficultés financières, parce que dans une phase d'expansion, les financements arrivent sans problème. À partir du moment où il est en recul et où il a énormément dépensé pour cette campagne électorale, les caisses sont à peu près vides. En plus, il a des difficultés internes, dans la mesure où un certain nombre de dirigeants reprochent à Hitler son jusqu'au boutisme, c'est-à-dire considèrent que Hitler vise trop haut en demandant uniquement le poste de chancelier, et que dans un premier temps, il devrait se contenter d'accepter quelques ministères. Donc, difficultés financières, difficultés d'orientation stratégique à l'intérieur du parti nazi. Et c'est finalement la politique de von Papen, qui est un ancien chancelier, qui pense manipuler Hitler, qui arrive à convaincre Hindenburg qu'on peut nommer le petit caporal autrichien chancelier, que lui sera vice-chancelier et qui se servira d'Hitler comme une petite marionnette. Donc on sait que le bonhomme a absolument rien compris à la situation, puisqu'il sera éliminé dans les mois qui suivent, enfin éliminé, il sera mis dans un poste subalterne, quoi. C'est pas du tout un opposant, hein, loin de là, mais il sera totalement marginalisé au bout de quelques mois. Donc son plan était totalement ridicule. Donc voilà le contexte. Hitler est nommé chancelier par Hindenburg dans une situation où le parti nazi ne connaissait plus la formidable ascension qu'il avait connue entre 1929 et 1932. Son premier échec électoral majeur. Malgré ça, une partie de la bourgeoisie allemande se tourne vers lui par l'intermédiaire de von Papen et il est nommé chancelier. Et là, voilà ce qu'on peut lire dans l'Humanité du 31 janvier 1933, dont le titre de première page, hein, le titre de la, enfin, la une de la première page de l'Humanité, le résultat d'un moindre mal, deux points, Hitler chancelier. Et quelques semaines après, en avril 1933, c'est encore l'International communiste qui déclare, donc là je cite, ouvrez les guillemets, « Malgré le terrorisme fasciste, l'essor révolutionnaire va s'amplifier inévitablement. L'institution de la dictature fasciste manifeste qui réduit à néant les illusions démocratiques des masses et les soustrait à l'influence de la social-démocratie accélère la marche de l'Allemagne à la révolution prolétarienne. »
Et d'ailleurs, ça, c'est assez intéressant parce que ça fait écho à une autre émission qu'on a faite justement sur le livre de Wilhelm Reich, La psychologie de masse du fascisme, parce que en fait, ça montre bien cette espèce de vision complètement mécaniste de l'histoire qu'avait le marxisme orthodoxe de l'époque, c'est-à-dire croire que forcément la crise allait donner, allait amplifier le pouvoir de la classe ouvrière. Que forcément il y a un gouvernement fasciste, donc ça va liguer toutes les oppositions contre lui et ça va être. Et ce qui fait qu'en fait, quasiment, effectivement, chez les marxistes orthodoxes staliniens notamment, le nazisme est presque une aubaine qui va permettre finalement la révolution en Allemagne, quoi. Ce qui est quand même rétrospectivement complètement fou. Et je pense que les citations que tu mets en exergue montrent bien. Que dans le marxisme orthodoxe, il y a eu une profonde incompréhension de ce que c'est que le fascisme. Et ça, c'est intéressant, d'ailleurs, chez Daniel Guérin, c'est qu'il fait une analyse assez complète du fascisme, dans le sens où il montre bien à la fois les aspects de classe, mais alors de manière beaucoup plus fine, hein, parce qu'il y a vraiment déjà, il est allé sur le terrain, entre guillemets, puis il a vraiment lu énormément, il s'est vraiment beaucoup documenté. Donc, son analyse, entre guillemets, du classe, du fascisme, et le lien entre le fascisme et le grand capital, etc., c'est quand même déjà beaucoup plus, beaucoup moins spéculatif hein, que ce qu'ont écrit les marxistes staliniens de l'époque. Et puis d'autre part, il montre bien l'importance de l'idéologie, de la mystique, ça on y reviendra un petit peu après, l'importance du phénomène de masse du fascisme, c'est-à-dire que c'est pas simplement un programme économique, le fascisme, c'est aussi un aspect qui dépasse hein, simplement une dimension purement économiciste, ou purement politicienne, alors qu'effectivement, la vision du marxisme orthodoxe est quand même très très réduite par rapport à ça.
Donc pour terminer sur le contexte, trois mots, je voudrais simplement dire que, alors que le phénomène, rétrospectivement, nous apparaît comme quelque chose d'énorme, massif, incontournable, etc., à l'époque, comme les citations en question le montrent, le phénomène n'est pas du tout analysé à sa juste valeur, et que ses conséquences sont absolument catastrophiques, puisque on note la disparition, mais en quelques semaines, du mouvement, enfin d'abord de la République de Weimar, en même temps du mouvement ouvrier allemand, qui, il faut le rappeler, est à l'époque considéré comme le plus puissant d'Europe occidentale, depuis la Deuxième Internationale, hein, donc depuis plusieurs décennies, et que le régime nazi réussit à se maintenir au pouvoir et va transformer en quelques années l'Allemagne, une Allemagne ravagée par la crise économique, en une puissance militaire menaçante qui va mener à la Deuxième Guerre mondiale. En ce qui concerne l'auteur, il me semble qu'on peut dire quelques mots pour expliquer le contexte de la naissance du livre. C'est que Guérin fait partie de... Ben justement, c'est un peu l'exception, avec quelques autres évidemment, c'est un peu l'exception qui confirme cette règle d'aveuglement, de sous-estimation du danger nazi, etc. Donc lui, au contraire, il a très tôt conscience de ce danger. À l'époque, c'est un tout jeune militant qui est proche de la revue syndicaliste La Révolution prolétarienne. Et à partir de 1935, il va adhérer à ce qu'on appelle la gauche révolutionnaire, qui est une tendance, qui a la tendance de gauche de la SFIO de l'époque. Au début des années 30, donc conscient du danger nazi, Guérin va effectuer deux voyages en Allemagne, un juste avant la prise du pouvoir et l'autre juste après. Donc le premier se situe précisément durant l'été 1932 et le second au printemps 1933. Et à son retour, il va publier un certain nombre d'articles, de témoignages sur, dans un premier temps sur l'Allemagne elle-même, l'Allemagne en crise, puis ensuite sur les premières semaines du nazisme au pouvoir. Donc il a publié ça par exemple dans l'hebdomadaire de Barbus qui s'appelle Monde, évidemment dans la Révolution prolétarienne, dans un magazine qui s'appelle Regard, et ensuite toute une série d'articles dans le quotidien socialiste qui s'appelle Le Populaire. Donc tout cet aspect témoignage, chose vue, été 32, printemps 33, on le retrouve dans un petit livre qui s'appelle La Peste Brune, et auquel je me permets de renvoyer, puisque c'est un livre écrit à chaud, hein, à ce moment-là, mais qui a été depuis constamment réédité dans les années 70 par Maspero dans la petite collection de poche, et depuis les années 80-90 par les éditions Spartacus, qui continuent à faire vivre un certain nombre de titres de Guérin, dont celui-là, auquel je me permets de renvoyer, parce qu'il est vraiment d'une facilité de lecture totale. Enfin, c'est des articles de presse très vivants, bien écrits, simples, et soulevant des événements toujours très, très significatifs. Voilà, donc, première étape, c'est ces voyages, la rédaction de ces articles et la publication de cette brochure. La deuxième étape, ça va être le fait que, donc, dès le printemps 1933, il y a un certain nombre de militants révolutionnaires allemands qui se retrouvent à Paris, en exil, et donc Guérin fait partie d'un groupe de gens, avec notamment René Lefebvre, le fondateur de Spartacus, la philosophe Simone Weil et quelques autres, qui essayent de mener un travail théorique sur le fascisme et le nazisme avec l'aide de ces révolutionnaires allemands. Guérin a une expression qui est assez jolie. Il dit qu'il voulait mettre les milieux révolutionnaires français à l'école des réfugiés allemands afin de bénéficier de leurs connaissances théoriques et de leur expérience pratique. Donc leur idée, c'était de tirer les leçons des erreurs du mouvement ouvrier allemand pour ne pas les répéter dans d'autres pays qui étaient confrontés à la montée du fascisme. Mais comme on se doute, ces révolutionnaires allemands avaient des parcours différents, avaient appartenu à des groupes différents. Et comme il était malheureusement prévisible, la proximité de l'événement et les questions de personnes ont pris bien souvent le dessus sur les discussions théoriques. Et donc l'expérience a un peu tourné court, mais ça a constitué la première prise de contact entre des militants révolutionnaires français et allemands qui étaient sur une double problématique à la fois révolutionnaire et antistalinienne. Et c'est finalement la philosophe Simone Weil qui avait participé à ces discussions qui incite Daniel Guérin à entreprendre une étude. Donc là, je cite, « afin de combattre le fascisme au moyen de recherches érudites ». Finalement, Guérin se décide lui-même à se consacrer à cette étude après les émeutes du 6 février 1934, qui sont considérées par beaucoup de gens en France comme étant un épisode pré-fasciste, quoi, une menace une marche des élites d'extrême droite contre l'Assemblée nationale, contre le Parlement. Et donc ce danger fasciste apparaissant extrêmement prégnant et urgent en France, Guérin a travaillé donc jusqu'en 1936 à ce livre Fascisme et grand capital. Et il va le reprendre ensuite à la Libération, avec quelques adaptations relativement mineures. Donc il va être republié chez Gallimard peu de temps après la guerre. Et c'est cette édition qui fait toujours référence et qui est rééditée depuis. Donc première vague de réédition dans les années 60-70 chez Maspero. Et plus récemment, cette édition de Libertalia, qui a la particularité d'être finalement la plus complète dont on dispose à ce jour, puisqu'elle, en dehors de l'appareil critique, elle a repris un article de Guérin écrit dans les années 50 qui s'appelle « Quand le fascisme nous devançait », qui est une espèce de réflexion menée après la Deuxième Guerre mondiale sur son expérience des années 30 face au fascisme et à la guerre qui venait. Et un autre texte qui a été ajouté, qui était initialement la préface à l'édition américaine, enfin la traduction américaine aux États-Unis de ce livre, donc par un penseur radical au sens états-unien qui s'appelle Dwight MacDonald et qui notamment a l'intérêt à mes yeux de poser la question du fascisme aux États-Unis ou des possibilités d'une dérive fasciste aux États-Unis qui est en général considérée comme quantité négligeable. Donc lui pose ça d'une manière très, très, très argumentée. Voilà, donc on a cette dernière édition.
Alors, pour des gens qui voudraient en savoir un petit peu plus sur Daniel Guérin, on peut renvoyer notamment à son autobiographie de jeunesse hein, qui est parue aux éditions La Fabrique récemment. Et puis également, pour les gens qui auraient un peu moins de temps, il y a également un très bon documentaire sur Daniel Guérin qu'on trouve facilement sur YouTube et qui est assez intéressant puisque ça reprend un petit peu sa vie, hein, de sa découverte des milieux ouvriers parce qu'il est homosexuel, les débuts dans son combat colonial. On a beaucoup parlé dans l'émission qu'on a fait déjà sur le Front populaire de tout son parcours dans les années 30 et puis tout ce qu'il va faire après dans les années 50-60 sur le combat afro-américain aux États-Unis, sur la lutte anticolonialiste et un certain nombre d'autres sujets. Daniel Guérin étant quelqu'un qui produit énormément de livres extrêmement bien documentés, extrêmement intéressants, extrêmement faciles à lire également, et qui en plus, disons, vont au fur et à mesure du temps devenir de plus en plus proches finalement des idées libertaires. L'époque fasciste de Grand Reptel, il l'est pas encore, mais on fera également une autre émission hein, sur un autre ouvrage de Daniel Guérin, sur Bourgeois et Bras Nus, hein, avec une historienne, justement, parce que Daniel Guérin, en plus d'être un grand historien du fascisme, est aussi un grand historien de la Révolution française. Alors, du coup, pour revenir justement à l'ouvrage, on est obligé de se dire, et c'est compliqué de trouver un titre, fascisme et quoi, parce qu'il y a plein de dimensions quand même dans le fascisme. Et fascisme et grand capital. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que Daniel Guérin commence, enfin son livre même, hein, sur justement un chapitre consacré aux bailleurs de fonds du fascisme. Alors, à première vue, on peut paraître un peu sceptique parce qu'on se dit, oulala, est-ce qu'on risque pas de tomber dans une thèse un petit peu réductionniste, c'est-à-dire finalement le fascisme n'est que l'émanation du grand capital. En réalité, ce que propose Daniel Guérin comme théorie est beaucoup plus subtil. En réalité, d'abord, pour citer hein, ce qu'il dit lui-même au tout début de son deuxième chapitre, hein, je pense que ça c'est vraiment très intéressant, il dit « Le fascisme ne naît pas que de la volonté et des subventions des manias capitalistes. » Voilà, déjà, il ne faut surtout pas croire que ce que dit Daniel Guérin dans ce livre, c'est en gros « Le fascisme n'est qu'une créature du grand capital. » Ce qui est très intéressant dans la manière dont Guérin pense la relation des mouvements fascistes, des partis fascistes avec le grand capital, c'est qu'il voit deux aspects un petit peu qui sont en tension, un petit peu contradictoires. C'est-à-dire que d'une part, le fascisme, une fois au pouvoir, dans les premiers mois et au préalable pour se faire financer, s'aligne complètement en fait sur les intérêts du grand capital, défend les intérêts du grand capital. On reviendra un petit peu là-dessus. Comment est-ce que le fascisme met en place en Italie et en Allemagne des politiques extrêmement favorables au grand capital, même peut-être encore plus favorables que celles de Macron. Puis comment est-ce que, évidemment, le fascisme a été utilisé historiquement par le grand capital, a été subventionné précisément pour restaurer ses profits et surtout en Italie, peut-être un peu moins en Allemagne, faire obstacle au mouvement révolutionnaire, hein, même si Guérin dit bien que le fascisme n'est ni le produit de la guerre, mais il n'est pas non plus le produit d'une révolution prolétaire immanente. Latente, voilà, que c'est plus compliqué. Surtout en Allemagne, on voit bien qu'il n'y a pas de menace révolutionnaire en 1933. En 1922, en Italie, cette menace s'est un petit peu effacée quand même depuis 1920. Enfin, voilà, quoi. Et d'un autre côté, donc Daniel Guérin montre finalement que, ensuite, une fois que le fascisme est au pouvoir, le grand capital, finalement, à travers le relais de l'armée, qui est vraiment très important dans l'analyse de Daniel Guérin, pas tellement du personnel politique, mais surtout de l'armée, va en fait finalement réussir à peser énormément sur la conversion du fascisme d'un mouvement de masse démagogique, avec une rhétorique anticapitaliste qui a un programme un peu délirant, qui cherche à transformer le capitalisme de telle ou telle manière, en finalement un capitalisme assez classique, réactionnaire, au service du grand capital. Et en même temps, Guérin montre bien que le fascisme, en même temps, ne s'identifie jamais complètement au grand capital. Déjà, lorsqu'il est à la conquête du pouvoir, il développe une rhétorique, une idéologie qui est en décalage quand même avec, avec le grand capital, hein, qui même parfois l'attaque d'une manière plus ou moins forte. Et d'autre part, même une fois au pouvoir, et ça je pense que c'est quelque chose de fondamental, sinon on ne comprend pas en fait l'évolution hein, du régime fasciste, on va dire en Italie, surtout à partir de 35-36, et en Allemagne, à partir peut-être aussi de 36, 38, 39, c'est que finalement, le fascisme que le grand capital avait plus ou moins réussi à domestiquer et à faire appliquer son programme dans les premiers mois de sa prise du pouvoir, va petit à petit, en fait, du fait précisément qu'il a un pouvoir politique total et absolu, va précisément mener sa propre politique, et qui est une politique à la fois de dictature totale hein, sur la société. Ce qui fait que, ben, en fait, même le grand capital, même si évidemment ses profits ne seront jamais menacés, mais va se retrouver embarqué dans une aventure militaire et impérialiste sur laquelle il a des doutes, disons, hein, de plus en plus de doutes. Et ce qui va mener, en fait, a fait qu'à un moment, le grand capital va chercher même à renverser le fascisme. Extrêmement tard, hein. En 1943, en Italie, il va réussir. Et puis en 1944, en Allemagne, avec l'attentat contre Hitler du 20 juillet 1944. Et là, pour le coup, ça ne va pas réussir. Là, pour le coup, d'une certaine manière, Hitler va embarquer le grand capital avec lui vers l'autodestruction, hein, le crépuscule des dieux de 1945. Mais disons que ce qui est très intéressant dans cette manière de Guérin, quand il pense justement les rapports du fascisme au grand capital, c'est qu'on est... On n'est ni dans une thèse où le fascisme finalement n'a rien à voir avec le grand capital, où finalement c'est juste un mouvement de classe moyenne, un peu démagogie, voilà, qui finalement s'attaque à la fois à la classe ouvrière et au grand capital. Et en même temps, le fascisme, même si au fur et à mesure du temps, comme le dit Guérin, il a tendance au moins, on va dire, quelques années après son pouvoir, à ressembler quand même pas mal à une dictature militaire traditionnelle. Trotsky qui dit que finalement le fascisme a tendance un petit peu, au bout de quelques années, à ressembler à une dictature militaire traditionnelle. En réalité, comme le montre très bien Guérin dans le bouquin, le fascisme ne sera jamais une dictature militaire traditionnelle. Et même au pouvoir, ça reste un phénomène unique dans l'histoire qu'on ne peut pas réduire simplement à une droite traditionnelle autoritaire. Ce qui fait que, par exemple, on peut considérer que le fascisme italien et le national-socialisme allemand sont quand même assez distincts, par exemple, de la dictature conservatrice de Pétain, de la dictature conservatrice de Salazar au Portugal, ou de la dictature de Franco en Espagne, qu'il y a quelque chose en plus dans ces deux phénomènes.
Concernant le bouquin, il me semble que, avant de rentrer dans le détail, il faut simplement le citer, pour bien comprendre quel est le but de l'ouvrage, d'après l'auteur lui-même. Voilà ce qu'il en dit. Exposer les véritables raisons de la victoire fasciste, démasquer sans ménagement les défaillances des partis ouvriers vaincus que d'autres s'obstinaient à camoufler, convaincre le lecteur qu'on ne pouvait pas combattre le fascisme en s'accrochant à la planche pourrie de la démocratie bourgeoise, qu'il fallait donc choisir entre fascisme et socialisme. Je pense que dans ces quelques lignes, il y a l'essentiel, c'est-à-dire expliquer, exposer les raisons de la victoire fasciste. Et la victoire fasciste ne peut venir que de la défaite des partis ouvriers, ce qu'il appelle la défaillance des partis ouvriers vaincus, que non seulement après la victoire du fascisme, il s'obstine à camoufler, comme dit Garin.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'une espèce de retour d'expérience, quoi, ou de pédagogie de la défaite, quoi. C'est-à-dire que les raisons de la défaite continuent à être masquées. Et donc, une des préoccupations de Guérin, c'est celle-là. C'est-à-dire on explique les raisons de la victoire fasciste, en même temps, on démasque les défaillances des partis ouvriers vaincus, et on pose bien le problème entre fascisme et démocratie bourgeoise, et fascisme ou socialisme, quoi. Dans la mesure où une partie de l'antifascisme des années 30 a été dévoyée sur le terrain de la démocratie bourgeoise, quoi. Donc Guérin ne tombe pas du tout dans ce travers-là. Enfin, comme tu as souligné à juste titre, c'est pas du tout un livre réducteur, c'est un livre qui est même au contraire souvent assez subtil, très dialectique, etc. Mais qui ne fait pas de l'antifascisme à la sauce démocrate bourgeoise, quoi. Et donc qui est essentiellement sur un projet socialiste de sortie du capitalisme, quoi.
Oui, c'est ça qui est intéressant.
Voilà pour la première chose que je voulais dire. La deuxième, toujours pour rester focalisé sur le bouquin. S'explique bien Guérin, c'est que le basculement vers le fascisme suit un scénario qui est à peu près identique en Italie et en Allemagne. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en période stable, le capitalisme s'accommode, tant bien que mal, de la démocratie bourgeoise, quoi. Mais qu'une fois que la crise est là, et que la crise s'aggrave, quoi. Là, il y a nécessité de faire appel à des solutions qui sont quasi inédites, quoi. Et que c'est le fascisme qui, à sa manière, va les apporter. Et là, il faut distinguer, il me semble, d'une manière très ferme, très nette, ce qui concerne avant la prise du pouvoir et ce qui concerne la phase où le fascisme lui-même, enfin le fascisme ou le nazisme, quand je parle de fascisme en l'occurrence, c'est les deux sous la même appellation, hein, c'est-à-dire le fascisme italien et nazisme allemand. Au départ, il me semble que, de manière assez évidente, que le fascisme n'est qu'un supplétif du grand capital pour combattre les organisations ouvrières. Donc le financement, c'est pas du tout financer un parti qui va arriver au pouvoir. C'est on finance des ligues ou des organisations qui nous permettent de combattre les organisations ouvrières, et quelle que soit d'ailleurs la phase ou l'intensité des luttes sociales dans le pays concerné, quoi. Donc en Italie, il ne faut pas oublier que c'est la période de ce qu'on a appelé le Biennio Rosso, c'est-à-dire les deux années rouges, donc 1919-1920, sont deux années de conflictualité sociale extrêmement importante en Italie. L'Italie a un État et un gouvernement qui est relativement faible, et donc les forces de répression classiques de l'État ne sont pas à la hauteur, si j'ose dire, quand elles ne collaborent pas. On sous-mène avec les fascistes, en état de rétablir l'ordre, quoi. Et un ordre qui est d'autant plus malmené que c'est la période des occupations d'usines dans le nord de l'Italie, dans toute l'Italie industrielle, et les occupations de terres dans toute la partie plaine du Po, etc., où se trouvent les grands domaines où travaillent les ouvriers agricoles. Pour les cinéphiles, je renvoie au film de Bertolucci, 1900. Voilà, donc ça, c'est la première phase. En gros, le grand capital, ou une certaine partie des classes dominantes, en particulier les propriétaires terriens, c'est le cas en Italie, mais c'est aussi le cas en Allemagne, enfin, dans toute la, par exemple, la région du Schleswig-Holstein, auquel le fascisme va se développer parmi les paysans d'une manière extrêmement forte. Enfin, tous les hobereaux allemands, par exemple, qui sont toujours sur une position extrêmement conservatrice, réactionnaire, violente, etc., depuis 1918.
Quoi. Les hobereaux, c'est important, c'est-à-dire l'aristocratie foncière. Voilà.
C'est ça, ouais, c'est l'est de l'Allemagne où subsistent encore de grands domaines agricoles aux mains de propriété de la noblesse locale. Quoi. Donc voilà, dans ce premier cas de figure, on se sert du fascisme comme d'un instrument pour combattre les organisations ouvrières. Mais en même temps, ces organisations fascistes, c'est pas du tout une invention diabolique du grand capital qui veut sauver son hégémonie. Ces forces s'appuient sur des couches sociales qu'il faut identifier. Et il me semble que un des intérêts du livre de Guérin, c'est d'avoir une analyse extrêmement fine, extrêmement précise des classes moyennes. En général, on dit le fascisme c'est les classes moyennes, ou c'est l'expression politique de classes moyennes en crise, dans un contexte de crise. Guérin dit c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque les classes moyennes, c'est pas du tout un ensemble homogène. Il y a un double phénomène parmi les classes moyennes. Il y a à la fois des classes moyennes qu'on peut qualifier d'anciennes, qui sont en voie de paupérisation sous l'effet de la crise, et une autre partie de ces classes moyennes qu'on pourrait qualifier de nouvelles, qui, elles, sont victimes de la prolétarisation. C'est-à-dire, on a des classes moyennes, anciennes, qui se paupérisent. C'est par exemple le rentier allemand, dont l'épargne ne vaut plus rien. Sous l'effet des crises, sous l'effet de la crise, enfin, c'est l'époque de l'inflation du début des années 20, quoi, qui voit apparaître le premier parti nazi d'origine, quoi, se construit à ce moment-là, entre 1920 et le coup d'État de Munich de 1923. Et la prolétarisation des classes moyennes nouvelles, c'est l'ingénieur ou le cadre qui voit son autonomie réduite en même temps que ses revenus et qui se rend compte que finalement il est que l'équivalent d'un contremaître du 19e siècle alors qu'il se rêvait en quasi-dirigeant de la boîte. Voilà, je crois que c'est ce double phénomène des classes moyennes que Guérin analyse parfaitement bien. Et il analyse aussi la séduction qui pourra être faite par le fascisme sur d'autres classes sociales. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple sur la classe ouvrière, cette séduction sera nettement moindre, quoi. Elle ne sera pas centrale, elle ne sera pas aussi centrale que pour les classes, moyennes.
Oui, il faut citer d'ailleurs un chiffre qui est intéressant, c'est les résultats de l'émanation syndicale du nazisme dans les grandes entreprises allemandes 1932-1933 font avant la prise du pouvoir, ils font 0,5% des voix et après la prise du pouvoir, ils font 3%. Donc bon, au moins on va dire dans la grande industrie, il y a pas enfin le nazisme vraiment n'a pas enfin un très très faible ancrage. On a également dit que le nazisme c'était parti un petit peu du lumpen prolétarien, hein, des sans-travail. En réalité, comme l'a montré par exemple Sergio Bologna dans son article sur Libcom, en réalité, parler d'un parti de ces sans-travail, ce serait plutôt le parti communiste allemand. Donc on voit que, et d'un autre côté, les travailleurs les plus qualifiés ont tendance quand même plus à être du côté du SPD. Donc, effectivement, il va y avoir une partie des ouvriers qui vont être séduits par le national-socialisme. Après, il faut aussi bien dire que le national-socialisme ne se présente pas aux classes sociales toujours de la même manière. Évidemment, il a une propagande spécifique pour les ouvriers qui va insister sur la lutte contre le grand capital, il va avoir des affiches spéciales pour les classes moyennes ou qui va critiquer les banquiers juifs et le grand capital monopoleur. Enfin voilà, il y a toujours une espèce de rhétorique qui essaye de séduire. Et c'est là où je trouve Guérin très intéressant, justement dans ce deuxième chapitre où il a parlé des troubles du fascisme et même dans son analyse de manière générale, c'est que pour lui, finalement, et là on renvoie aussi à une émission qu'on a fait avec Michael Seidman sur justement sur l'antifascisme, hein, c'est que finalement Daniel Guérin pense que contrairement à ce qui a été fait notamment en France, c'est-à-dire où on essaie d'éviter le fascisme en se droitisant, c'est-à-dire en essayant de faire des alliances avec les partis qui soi-disant représentent les classes moyennes, ce qui en réalité opère une espèce de droitisation du champ politique et qui... Il faut même rappeler qu'en France, le gouvernement qui va nommer, qui va faire que Pétain va arriver au pouvoir, c'est l'Assemblée élue en 36. Donc on voit bien qui pourtant devait symboliser justement l'alliance des partis ouvriers et des classes moyennes. Et finalement, ce que dit Daniel Guérin sur les classes moyennes est assez intéressant d'un point de vue, je pense, stratégique. C'est qu'il dit bien que les intérêts des classes moyennes et du prolétariat ne sont pas identiques. Bien sûr que, notamment pour ce qui est... on a consacré une autre émission sur les classes moyennes salariées. Bien sûr que les classes moyennes salariées et le prolétariat n'ont pas les mêmes intérêts que... le prolétariat est notamment sous la direction globalement des classes moyennes salariées. Et en plus, il y a un différentiel de salaire, etc. Et d'autre part, pour ce qui est des classes moyennes anciennes, parfois, si c'est des petits propriétaires qui ont eux-mêmes leurs salariés, il y a effectivement une divergence d'intérêts de classe. Mais ce que dit Daniel Guérin, c'est que il faut prendre acte de ces divergences et ne pas les sacrifier à un programme extrêmement tiède et qui finalement, pour les classes moyennes, ne sont pas si séducteurs parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent faire beaucoup mieux avec les nazis, mais plutôt que l'unité aurait dû se faire dans l'offensive contre le grand capital, quoi. Finalement, c'est ça que dit Daniel Guérin et précisément la faiblesse un petit peu de toute la gauche de cette époque, c'est effectivement son incapacité à s'attaquer à ce grand capital qui est pourtant, comme le dit Guérin, surtout Guérin, bon, il distingue beaucoup l'industrie légère et l'industrie lourde, hein, c'est quelque chose d'assez fondamental dans son propos, je trouve que c'est assez intéressant. C'est qu'il va développer l'idée que finalement, la fraction, et ça je pense que c'est intéressant chez Guérin, c'est que là, il n'y a pas une classe ouvrière complètement homogène, une classe moyenne complètement homogène, une classe capitaliste complètement homogène, mais en fait il y a une composition de classes qui est, où il y a des fractions, des divergences d'intérêts, etc., etc. Et il montre bien que, bon, on a parlé des classes moyennes, hein, de leur composition un peu spécifique, de leurs intérêts différents, pareil pour le prolétariat, mais pour le grand capital, pour lui, c'est plutôt l'industrie lourde, pousse plutôt à une politique, pas de collaboration de classe, mais au contraire d'écrasement du prolétariat, qui vit beaucoup des commandes d'armement, donc il va pousser évidemment à l'impérialisme et tout ça. C'est plutôt cette frange-là du capital qui va pousser les fascistes au pouvoir. Au contraire, l'industrie légère, elle est un petit peu plus réticente, parce que plus dépendante de la main-d'œuvre, donc de rapports de classe relativement harmonieux, donc du coup elle est plus hésitante. Et puis d'autre part, elle n'a rien à gagner au programme ultra-impérialiste des partis fascistes, et donc elle est plus réticente. Mais d'un autre côté, ce que montre Guérin, c'est que finalement, bon, le grand capital, une partie va s'accommoder du fascisme. Parce que malgré tout, bon, voilà, c'est la crise, il y a le mouvement ouvrier, etc., etc. Et puis il y en a une autre partie qui va le pousser fortement en avant. Enfin voilà, que on voit qu'il y a, chez Guérin, voilà, cette espèce d'analyse. Enfin, ce qui fait qu'on peut dire que fascisme et grand capital demeurent aujourd'hui la référence en termes d'analyse de classe du fascisme. Enfin.
Dans un premier temps, j'ai un petit peu insisté sur le rôle du fascisme, milice au service industriels ou des propriétaires fonciers. Après, dans un second temps, il me semble qu'il faut peut-être aborder la politique de l'État fasciste une fois qu'elle est au pouvoir. Et là, ce qui est extrêmement intéressant et extrêmement révélateur, c'est de constater que tout le discours précédent, sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure, mais tout le discours social, entre guillemets, du fascisme va totalement s'effondrer. Quoi. Au départ, il y a un truc extrêmement intéressant de Mussolini, c'est pas dans le bouquin, mais bon, on le trouve ailleurs. Mussolini dit « Notre seul programme, c'est d'arriver au pouvoir ». J'ai trouvé ça très extrêmement lumineux, éclairant. Parce qu'en fait, il n'y a pas finalement de programme. Quelqu'un comme Mussolini, il faut savoir qu'il est anticlérical, c'est lui qui va faire un construit, qui va se mettre d'accord avec le Vatican. Il se proclame républicain, il va s'accommoder de la monarchie en Italie, etc., etc. Enfin, je veux dire, on pourrait démultiplier les exemples presque à l'infini, quoi. Mais ce qui importe au mouvement fasciste dans la construction et dans leur ascension vers le pouvoir, c'est de se constituer comme des espèces de partis attrape-tout qui ont un discours spécifique pour chaque catégorie de la population à laquelle ils s'adressent, ce qui a priori peut paraître légitime et normal, sauf que ce discours n'est absolument pas articulé et absolument pas cohérent en interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet derrière qui articulerait les revendications de telle ou telle partie de la population. Mais, en gros, c'est de la démagogie pure et simple qui consiste à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, qu'ils votent aux élections, et pour créer une espèce de dynamique ascensionnelle vers le pouvoir. Cette dynamique aussi, elle est d'autant plus dangereuse, et là aussi, Guérin en parle longuement dans un chapitre qui s'appelle « La mystique ». Enfin, il y a la démagogie du fascisme, il y a aussi sa mystique. Et la mystique, ça consiste simplement à sortir de tout discours cohérent, rationnel, pour finalement en arriver à une espèce de culte du chef, où le chef a toujours raison, où le chef est au-dessus absolument de tout, et que ce qui compte, c'est d'adhérer à la personne du chef, et que c'est ça finalement qui va constituer l'alpha et l'oméga du changement. Donc on raisonne plus du tout en termes économiques, sociaux, de classe. On abandonne aussi toute rationalité pour se projeter dans une espèce de mystique, et c'est ce qui fait un des aspects, c'est à mon sens, une différence essentielle entre une dictature autoritaire et un régime fasciste. C'est que le régime fasciste a besoin,
avant la prise du pouvoir, mais aussi après, de cette espèce de mobilisation d'affect et d'instinct primaire pour la conquête ou pour la conservation du pouvoir, et donc à éliminer toute rationalité, toute cohérence, tout raisonnement et tout rationalisme. Quoi. Enfin, je pense que la raison est vraiment quelque chose à réhabiliter face au danger fasciste, dans la mesure où le fascisme raye absolument tout cet aspect-là pour finalement aboutir à des choses extrêmement primaires, une espèce de enfin, on sait que la religion, c'est le peuple du peuple, mais là, c'est une espèce de sous-religion du chef qui va primer absolument sur tout et qui va constituer la dynamique interne propre au propre fascisme, avec cet aspect mobilisateur qu'on ne retrouve pas dans les dictatures autoritaires classiques, qui, elles, vont s'appuyer sur
l'armée,
par exemple, voilà, les grandes institutions, l'armée, l'église, les possédants, d'une manière générale, etc. Alors que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Guérin pointe bien les différences de logique, quoi. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est incarné par des personnages, quoi. Par exemple, Guérin dit, bon ben voilà, Thyssen, c'est l'industrie lourde, ça sera parmi les bailleurs de fonds du fascisme. Walter Rathenau, c'est l'industrie chimique, et c'est l'industrie légère, enfin, entre guillemets. Comme on sait, Rathenau sera assassiné par l'extrême droite au début des années 20. Dès le début des années 20, on voit que que cette opposition s'incarne dans les personnages, dans leur élimination, etc., etc. Voilà. Mais je pense que une des idées extrêmement importantes à retenir, et non seulement pour l'aspect historique ou théorique, mais pour l'aspect beaucoup plus d'actualité, c'est cette façon dont le fascisme a besoin de trouver les moyens de mobiliser les affects primaire des populations contre une explication rationnelle des phénomènes sociaux.
Oui, c'est pour ça d'ailleurs que effectivement le fascisme se base toujours sur un culte du chef, hein. Même l'extrême droite française actuelle s'est basée beaucoup sur le culte de Jean-Marie Le Pen puis de Marine Le Pen ou encore un petit peu plus à droite sur celui d'Alain Soral. Ça illustre bien effectivement comme disait Mussolini, que le fascisme est une religion, hein, c'est quand même, il le dit in texto, hein, c'est quand même assez fou. Et puis, effectivement, comme le dit bien Reich dans la psychologie de masse du fascisme, effectivement, le fascisme arrive à mobiliser les énergies destructrices, la frustration créée par la crise, etc., pour en faire une force, d'une part, d'abord de conquête du pouvoir, ensuite d'écrasement de toute opposition. De guerre, quoi, hein, évidemment, clairement, la mobilisation, la mystique nazie va être relativement efficace, finalement, pour mobiliser des millions d'Allemands pour aller les faire combattre partout en Europe, sur tous les fronts. Enfin, voilà, c'est une de ses forces, et aujourd'hui encore, c'est clair que cette mystique est une de ses forces. Et puis, c'est là où, finalement, Guérin a placé judicieusement un petit peu la mystique et la démagogie l'un après l'autre, c'est qu'il montre bien que, d'une part, le nazisme va réussir par l'appel à une mystique, à la sensibilité, à l'idéologie nationaliste, etc., réussir à capter les énergies d'une partie croissante de la population. Et d'autre part, il va chercher effectivement à séduire les différentes catégories de la population en leur disant, comme tu dis, ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire qu'on va dire à la petite bourgeoisie, c'est la faute des banquiers juifs. On va dire au prolétariat, c'est la faute de la bourgeoisie. Mais c'est uniquement une critique de est-ce qu'ils ont vraiment la compétence pour diriger le capitalisme, est-ce que c'est pas une espèce de bourgeoisie un peu décadente et tout ça. Finalement, hein, on retombe toujours dans l'imaginaire de la décadence, hein, qui est très fort dans l'extrême droite. Et là, je renvoie à un ouvrage qui, quand même, je trouve assez intéressant, d'Alain Bire, qui s'appelle « L'actualité d'un archaïsme », où dans la première partie, il essaie de le faire une théorisation de l'extrême droite. Et bon, évidemment, Alain Bire, hein, qui s'inspire beaucoup des analyses de Daniel Guérin, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, on mettra des extraits sur notre site. Mais voilà, on voit bien que voilà, le fascisme va également s'adresser aux aux petits artisans, aux petits commerçants, leur disant qu'ils sont contre la concentration industrielle, contre le capitalisme monopoleur, même si dans la réalité, évidemment, ils vont favoriser en réalité la concentration industrielle. Ils vont dire aux classes moyennes notamment, et puis à l'aristocratie ouvrière, mais non, on va dépasser la lutte des classes par un système économique qui va finalement favoriser toutes les classes, qui seraient les corporations, hein, et qui veut dire en fait que l'économie serait à la fois dirigée par les ouvriers et par les patrons. Dans la réalité, évidemment, elle restera dirigée uniquement par les patrons, hein, sous le nazisme, et peut-être même encore plus fortement qu'avant, vu que le mouvement ouvrier aura été écrasé. Le fascisme va même jusqu'à... alors là, on voit vraiment le niveau de démagogie, dire qu'ils ne sont pas contre les syndicats, bon, du moment qu'ils respectent l'intérêt national. Et puis, bon, dans la réalité, en fait, ils vont interdire tous les syndicats et faire des syndicats uniquement des relais des volontés du patronat. Ils vont admettre la grève du moment qu'elle ne nuit pas à l'intérêt national, et dans la réalité, ils vont l'interdire férocement. En Allemagne nazie, qui fait grève alors, au début des années 30, enfin juste après 1933, c'est plusieurs années de prison, et puis après c'est la peine de mort directement pendant la guerre, donc voilà. Et enfin, le fascisme va dire qu'ils vont partager les terres, peut-être même transformer un peu la propriété, et dans la réalité, au contraire, la concentration des terres sera encore renforcée dans le nazisme, les petits paysans seront encore plus spoliés, les journaliers agricoles encore plus exploités. Donc on voit bien finalement que le nazisme, à la fois une mystique pour faire perdre aux gens la notion de notamment de leurs intérêts de classe, et une démagogie pour leur faire croire que le fascisme va dans leurs intérêts de classe, alors même qu'il va contre leurs intérêts de classe. Et c'est ça, je pense, assez intéressant chez Daniel Guérin, c'est d'avoir montré que non seulement évidemment le fascisme était contre les intérêts de classe du prolétariat, mais même des classes moyennes en fait. Et finalement, il montre, d'ailleurs je pense relativement convaincante, que finalement le fascisme ne profite vraiment qu'au grand capital, et notamment au grand capital de l'industrie lourde, puis finalement qu'il finit par, avec notamment la Seconde Guerre mondiale, par plus profiter à grand monde d'ailleurs, et par juste s'avérer comme une catastrophe anthropologique.
Sur l'aspect de la démagogie, je crois qu'il faut nettement y insister. Il me semble que Guérin dit quelque chose qui ressemblerait à ça. La plus grande victoire finalement du fascisme, c'est de mobiliser les passions primaires des gens contre leurs propres intérêts. Ça, c'est quelque chose je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, y compris sur les questions d'actualité, quoi. La réussite finalement d'un mouvement fasciste en expansion, c'est de mobiliser les passions irrationnelles des gens pour un mouvement qui va à l'encontre de leurs propres intérêts immédiats. Et donc cette démagogie dans la phase d'ascension au pouvoir tombe le masque trop tard. C'est-à-dire une fois que le fascisme est au pouvoir. Par exemple, l'État fasciste, un de ses premiers objectifs, c'est de paralyser toute forme de résistance ouvrière. Donc dans un premier temps, il va détruire et interdire les syndicats. Pour être un peu plus factuel, je voudrais rappeler que les syndicats allemands est interdite dès mai 1933. Il y a une petite anecdote que je trouve assez éclairante quand on évoque l'échec du mouvement ouvrier allemand, quoi. C'est que les syndicats allemands ont appelé à manifester le 1er mai 1933, et donc ont défilé le 1er mai 1933, encadré par les nazis, et que dès le lendemain, les syndicats ont été dissous et tous les immeubles de la Confédération des syndicats allemands ont été saisis par l'État au profit du Front du Travail, qui était l'organisation verticale nazie destinée à encadrer en gros la force de travail, quoi. Mais qui était un truc qui n'avait absolument rien à voir, ni de près ni de loin, avec un quelconque syndicat. Une organisation totalement verticale et para-étatique, quoi, destinée à encadrer la force de travail et à organiser les loisirs ouvriers, quoi, hein. Donc à récupérer, et la première semaine de mai, l'ensemble des actifs et des locaux, des fonds, etc., qui étaient détenus par les syndicats allemands. Donc on voit que, voilà, entre le 30 janvier et le 2 mai, on voit qu'il y a peu de semaines qui se sont passées, et là les syndicats sont interdits, mais totalement, quoi. Donc dans un premier temps, on détruit et on interdit les syndicats, on abolit le droit de grève et les conventions collectives, et on rétablit d'une manière extrêmement
forte l'absolutisme patronal au sein des entreprises. Donc l'objectif d'un parti fasciste au pouvoir, c'est d'empêcher finalement toute tentative autonome de lutte de classe. Et pour cela, comme j'ai dit, il tombe le masque puisqu'il met l'entière autorité de l'État au service du patronat. Les travailleurs sont embrigadés dans des organisations de surveillance étatique de la force de travail, dont toute la hiérarchie est nommée par l'État et qui échappe totalement au contrôle des adhérents. En Italie, ce sera les syndicats fascistes qui sont que des organes d'administration de l'État. Et en Allemagne, je vais en parler, c'est le fameux Front du Travail. Donc, d'une manière générale, il faut imposer l'idée que lutter contre le patron, c'est s'opposer à l'État.
Et donc à la nation. Enfin, finalement, tout va de pair, quoi.
C'est... Tout à fait. Et ça, il y a une très jolie expression de Guérin, qui est de parler du massacre des salaires. Voilà, toute cette politique-là, que je viens de décrire en termes d'abolition du droit de grève, des conventions collectives, d'interdiction des syndicats, etc., etc., son seul objectif, c'est le massacre des salaires qui va permettre le rétablissement des profits dans les grandes entreprises. Donc, d'une manière générale, le patronat bénéficie d'une réorientation budget de l'État vers l'industrie de guerre. Dès le départ, hein, la guerre est inscrite dans la logique du fascisme, quoi. Le fascisme ne pouvait déboucher que sur la guerre. Parce que sa politique économique consiste à relancer, par le biais d'une intervention de l'État, tournée principalement vers les industries de guerre. Donc ça, c'est le premier bénéfice qui concerne l'industrie lourde. Le second bénéfice, ben là, c'est pour l'ensemble du patronat allemand, qui échappe à toute contestation ouverte. Voilà, donc massacre des salaires, rétablissement des profits et bénéfices engrangés pour l'industrie lourde par le biais de commandes de l'État pour l'industrie de guerre et bénéfices pour l'ensemble du patronat par le fait que le mouvement ouvrier est totalement éliminé, annihilé, interdit.
Oui, c'est-à-dire, on voit bien que finalement, le fascisme, tout au long de sa période au pouvoir, même si il ne va pas toujours être simplement suivre les intérêts du grand capital qui parfois n'est pas forcément pour une aventure militaire gigantesque. On a du mal à croire par exemple que les manias de l'industrie lourde allemande avaient très envie d'affronter le capital américain, sachant que bon, c'était un peu perdu d'avance, quoi. Mais enfin, clairement, en tout cas face à la classe ouvrière, le fascisme est vraiment au service du grand capital. Ça, c'est vraiment quelque chose que Guérin démontre de manière incroyable, et ce qui fait que au tout début, le fascisme est même sur certains aspects extrêmement libéral, avec des allègements d'impôts extrêmement importants. Ensuite, il va devenir plutôt un capitalisme d'État, un capitalisme de guerre, qui effectivement va imposer des contraintes de plus en plus fortes au grand capital, mais principalement à son bénéfice, il faut bien le dire. Ce qui est clair, c'est que non seulement le fascisme n'est pas un anticapitalisme révolutionnaire, mais c'est même pas un anticapitalisme, enfin, voilà, qui favoriserait quand même plutôt les classes moyennes et tout ça. C'est vraiment une politique au service du grand capital, avec des choses qui aujourd'hui, c'est vrai qu'on est assez stupéfait quand on lit les mesures du fascisme. C'est des mesures qui, sur certaines mesures, en tout cas, qui sont considérées aujourd'hui comme néolibérales, sur notamment le fait de favoriser la concentration foncière, de favoriser la modernisation des exploitations agricoles, le fait de favoriser les allègements d'impôts, le fait de subventionner massivement les grandes industries, le fait de casser les salaires, le fait éventuellement de recourir à de la main-d'œuvre forcée. Enfin, on voit clairement que, pour le coup, le fascisme, sur certains aspects, c'est une dictature du grand capital. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit Guérin, hein, je veux dire, on peut vraiment parler de ça, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, que bien connu que le fascisme effectivement mène effectivement à la violence nationaliste, à l'impérialisme, à l'antisémitisme, etc., etc., mais il bénéficie finalement même pas, clairement pas au prolétariat du pays fasciste, il bénéficie même pas vraiment aux classes moyennes du pays fasciste, il bénéficie finalement quasiment que au grand capital, et puis au mouvement fasciste lui-même, parce qu'évidemment, il faut bien le dire, et je pense que ça on l'abordera dans une deuxième partie de l'émission, c'est que le fascisme, là, qu'on a présenté de manière relativement unitaire, en réalité, c'est un parti avec des logiques un peu différentes, qui s'affrontent, mais qui est aussi un mouvement qui est au service de lui-même. Hein. On l'a dit tout à l'heure, hein, le but du fascisme, c'est la prise du pouvoir. Évidemment, derrière, il y a quand même surtout du côté nazi, quand même un programme idéologique assez fort. Et c'est un programme idéologique qui, comme on l'a dit, est extrêmement confus, contradictoire. Et on verra dans la deuxième partie de l'émission comment est-ce que le fascisme finalement va réussir à résoudre ses contradictions, principalement un petit peu comme d'ailleurs, pour faire un parallèle, même si il faut évidemment se méfier des parallèles entre fascisme et stalinisme, ou dictature marxiste-léniniste, puisque on peut dire que le marxisme-léninisme est une forme de dévoyé de révolution prolétarienne, alors que bon, le fascisme est clairement d'ores et déjà une contre-révolution, même si elle a des oripeaux révolutionnaires. Mais c'est vrai que on voit que ce que va faire le fascisme, ça va être principalement faire des épurations de son parti à répétition. Ça, on en parlera dans la deuxième partie, mais je trouve que c'est quand même relativement intéressant que le fascisme, non seulement ne reflète, défend pas les intérêts, ne défend les intérêts quasiment que du grand capital, mais en fait s'élimine lui-même au fur et à mesure du temps, jusqu'à la destruction totale, finalement, du côté nazi, et puis après du côté italien, quelque chose d'un petit peu plus subtil. Et donc, on va faire une pause musicale avant d'aborder les thèmes qu'on n'a pas encore abordés, qui vont rentrer un petit peu plus dans les détails, on va dire, de la composition interne du mouvement fasciste avant le pouvoir et après le pouvoir, d'une part, correspond un petit peu au chapitre 5 et au chapitre 6 de l'ouvrage de Daniel Guérin. Et puis on parlera un petit peu de la politique économique du fascisme et de sa politique agricole. Donc ça c'est le chapitre 9 et 10. Et puis après on conclura brièvement un petit peu sur la conclusion de Daniel Guérin sur ce que c'est que finalement, au final, qu'est-ce qu'on peut garder comme grande caractérisation du fascisme.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.